Chapitre 23. Elle entendait la respiration de l'homme tapi dans les ténèbres. Mais elle ne bougeait pas, tétanisée. Comme ces petits animaux incapables de réagir face au danger. Il allait l'égorger de la même façon qu'il avait saigné le vieil homme étendu au milieu de son étrange labyrinthe de carton. Que foutait donc Johannes? Il ne l'avait pas suivi au sortir du bâtiment, il n'avait pas prévu qu'elle tournerait subitement dans cette cour d'immeuble. Il l'avait sans doute perdu de vue. Le portable de la fille venant de s'éteindre, il ne pouvait même plus l'appeler. Ils étaient tous les deux, vaisseaux et passagers, suspendus au souffle du tueur, prisonniers des ténèbres qui s'emplissaient d'odeurs de sang, d'urine et de merde. Le cœur de la fille battait à tout rompre. Ses yeux grands ouverts essayaient de détecter un mouvement entre les cloisons qui émergeaient, grisâtres de l'obscurité. Ses pensées tourbillonnaient, s'entrechoquaient, s'entremêlait aux souvenirs surgis de sa mémoire profonde, ribambelle d'enfants rieurs courant dans les chemins de terre ocre, nuages de poussière percés par un soleil de plomb, homme blanc nu et dégoulinant de sueur dans une chambre éclairée de lumière rouge, visage d'une femme noire au sourire carnassier, couloir métallique et escalator d'un aéroport, courette ceinte d'un mur d'argile et parsemée de flaques boueuses, voiture fonçant, vitres ouvertes sur une piste en piètre état, odeur aigre de vomissure souillant les draps et l'oreiller. Douleurs aiguës dans le ventre. Elle ne semblait pas très âgée, 20 ans peut-être, et pourtant, plusieurs mondes, plusieurs vies cohabitaient en elle. Lorsqu'il l'avait découverte, allongée dans le récepteur, Cyrienne l'avait devinée jolie sous le casque qui lui couvrait en partie le visage. Il avait flotté un petit moment au-dessus d'elle, rebuté par sa peau noire, un vieux réflexe forgé. Il s'en était rendu compte à l'occasion, par une croyance rampante en la supériorité de la civilisation occidentale. Il avait eu moins de réticence devant le corps pourtant ravagé de Mati. Son âme, ressentant le besoin urgent, fondamental, de s'incarner, était revenue vers son corps d'origine, qui reposait de l'autre côté de la cloison. Il avait balayé tous ses doutes pour inverser le mouvement et se projeter dans son organisme d'emprunt. Il n'avait pas eu le temps de l'explorer, mais sans doute parce qu'il en était à son deuxième voyage, il n'était pas passé par la phase d'imprégnation synesthésique. Il était entré directement en symbiose, synchronisé immédiatement avec l'essence de son nouveau vaisseau. Pas de buée sur les hublots. Il avait marché entre les façades des immeubles dans la nuit noire, contemplé le ciel sans étoiles, aperçu, à la faveur d'un coup d'œil en arrière, la haute silhouette de Johannes à l'entrée du bâtiment délabré. S'était aventuré dans la cour baignée d'obscurité, glissé dans la cave par le soupirail agrandi, avait humé un indéfinissable remugle qui masquait les odeurs de moisissure et de carton humide. Puis, il avait vu à la lueur du téléphone portable de son vaisseau la plaie béante au cou du vieil homme, le sang visqueux sous le duvet. Il avait compris que la fille venait de mettre les pieds dans une mare d'ennui et s'était demandé s'il n'était pas parti pour son dernier voyage. Frottement prolongé, légère vibration sur les cloisons de carton. L'assassin se rapprochait. Il semblait respirer à quelques centimètres à peine de l'oreille du vaisseau. Des images d'hommes menaçants déferlèrent dans l'esprit de la fille, leur respiration rauque, sifflante, leurs yeux exorbités par le désir, enlaidis par le vice. Elle se tenait face au tueur comme elle s'était tenue devant eux. Tripes nouées, sang glacé, muscles plus durs que du bois.
« Barre-toi, bordel !»
Cyrienne avait eu l'impression de hurler. Mais sa suggestion se perdit dans les pensées bruissantes de la fille et parut seulement accentuer sa panique. Les voyageurs clandestins ne pouvaient pas influencer les décisions de leur vaisseau. C'est du moins ce qu'affirmait Johannes. Pas en 4 jours en tout cas. Il aurait fallu rester nettement plus longtemps dans le corps d'emprunt pour communiquer avec lui. Et donc se fondre en lui, s'interdire tout retour dans le corps d'origine.
« Dégage !»
La fille tressaillit. Chaque mouvement de la silhouette massive tout près d'elle maintenant ébranlait les cloisons de carton. Le tueur ne se hâtait pas, méfiant ou persuadé que sa proie épouvantée ne pourrait lui échapper. Des vagues déferlantes de terreur ballottaient Cyrienne et altéraient sa lucidité. Un déclic. Un faisceau étincelant emprisonna la fille, éclaira, 2 mètres plus loin, une main armée d'un couteau à la lame courbe marbrée de sang, révéla 20 de cahiers empilés les uns sur les autres et maintenus sous un coude.
« Qu'est-ce que tu attends pour te tirer, merde ?»
L'âme de Cyrienne s'affolait inutilement. Il lui était impossible de s'échapper de sa prison de chair sans l'aide du translateur. Le tueur et sa proie s'observèrent quelques secondes. Pourquoi hésitait-il? Il avait déjà un cadavre sur la conscience, il n'était plus à une victime près. Dans l'esprit du corps d'emprunt surgirent d'autres images, des textes rédigés d'une écriture appliquée, presque enfantine, sur des feuilles à larges lignes. Le visage du vieil homme qui lui confiait un cahier avec une étonnante solennité. Le rayon de la lampe trembla. Le tueur s'avançait. « Écoute !» Il haletait. Sa voix était étonnamment fluette, quasi enfantine. « Je n'ai pas l'intention de te tuer !» Les jambes de la fille, toujours accroupie, se mirent à trembler. Elle faillit perdre l'équilibre et basculer vers l'arrière. « Je ne suis pas obligé de te tuer, tu comprends ?»« Tu n'as pas vu mon visage !» Elle changea de position pour détendre ses muscles douloureux et reprendre ses esprits. « Pourquoi ? Pourquoi vous avez égorgé Anselme ?»«
Quelle importance, pourquoi ? Il t'offre la vie, tu as juste à en profiter !»
Le rayon de la lampe du tueur se promena maladroitement sur les cloisons, révélant les taches et les déchirures des cartons, puis revint se poser sur la fille.
« Tu ne pourrais pas comprendre. Personne ne pourrait comprendre. Va-t'en. »
Le cœur de la fille battait de moins en moins fort. La peur n'était plus en elle qu'une ombre froide et sournoise. Sa respiration s'apaisait. Son courage ou son inconscience exaspérait Cyriane.
« Pourquoi vous emmenez ces cahiers ?»
Le long soupir du tueur s'acheva sur un sanglot étouffé.
« Fous le camp avant que je change d'avis !»
Comprenant qu'elle n'en tirerait pas davantage, elle résolut enfin de partir. Elle contempla une dernière fois le vieil homme assis devant elle, éclairé par une bougie, un sourire malicieux et triste vissé sur les lèvres, disant que leur destin allait se séparer, qu'ils ne se reverraient plus. C'était son propre départ qu'il avait pressenti. Cyriane regretta de ne pas pouvoir passer, ne serait-ce que quelques secondes, dans le corps du tueur. Pour quel motif décidait-on d'égorger un vieil homme démuni et paisible? Qu'y avait-il dans ses fichus cahiers? La fille se faufila à l'extérieur de la cave en se guidant à la lumière de la lampe. Une fois dehors, elle s'éloigna d'un pas pressé sans se soucier de ses articulations douloureuses ni des frottements de son jean humide contre ses cuisses. Elle avait prévu de passer la nuit dans la cave d'Anselme. Elle ne savait où aller désormais, craignant à chaque instant de tomber sur une patrouille de vautours. Clandestine dans Paris, comme Cyriane était clandestin dans sa chair. Se plaquant contre une façade ou un porche au moindre frémissement, au moindre grésillement, elle tenta à plusieurs reprises de se réfugier dans une cour intérieure, mais les portes étaient verrouillées par des doubles ou triples systèmes de sécurité. Elle n'eut pas d'autre choix que d'escalader la grille d'un square proche. Une seule fenêtre brillait sur les façades surplombant les cimes des arbres. Elle connaissait les lieux. Elle pensa d'abord s'étendre sur l'un des quatre bancs de bois, puis, jugeant qu'elle n'y serait pas à l'abri des regards, elle décida de s'installer sous les branches d'un résineux qui retombait sur le sol comme les baleines d'un parasol replié. Elle rampa jusqu'au tronc, brisa quelques branches pour se faire une place et, avant de s'allonger, baissa son pantalon et s'accroupit. Sa miction achevée, elle se releva tant bien que mal sous les branches, remonta sa culotte et son pantalon, recouvrit la flaque de terre et de brindilles et, dans l'odeur d'arbres morts parfumés de relents d'urine et de déjection, elle se recroquevilla sur elle-même pour essayer de dormir. Cyriane, lui, ne perdit conscience à aucun moment. L'esprit de son corps d'emprunt restait actif pendant le sommeil. Aux pensées succédèrent les rêves auxquels, curieusement, il se trouvait mêlé. Elle rêvait qu'elle portait quelqu'un en elle. Pas un bébé comme d'autres femmes, mais un esprit mauvais, un charognard qui se nichait dans sa chair pour se nourrir d'elle. L'esprit mauvais empruntait différents visages, des hommes qui s'étaient succédés dans sa chambre, une femme noire au sourire carnassier, un homme noir à ses côtés, élégant, une femme blanche au cou allongé et à l'air affolé, un jeune et grand noir au regard et aux gestes doux, le vieux clochard égorgé, et une foule d'autres faces plus ou moins jeunes, plus ou moins moroses. La fille ne dégageait pas la même tristesse que Mathie. Elle avait pourtant déjà vécu, à 20 ans, des épreuves qui auraient conduit la plupart des gens à la colère, à la haine ou au désespoir. Sa fréquence n'était pas une vibration de rage ou de résignation, mais une vibration claire, harmonieuse. un chant d'amour et de joie. Les vagues incessantes des cauchemars n'empêchaient pas Cyriane de se sentir bien en elle. Il reprenait espoir. Johannes l'avait peut-être vu sortir de la cour d'immeuble et suivi. Le danger n'était plus aussi palpable. Il y avait toujours le risque qu'elle se fasse arrêter par une patrouille et se retrouve bouclée dans l'un de ces bâtiments où l'on parquait les clandestins avant de les réexpédier dans leur pays d'origine. Mais elle vivait et respirait paisiblement, agitée de temps à autre d'un mouvement nerveux. Il se souvenait des discours de son père sur les clandestins venus pour la plupart d'Afrique, un cancer qu'il fallait purement et simplement extirper du territoire européen, comme une tumeur avec un scalpel ou un laser, en les renvoyant chez eux, même ceux qui étaient en règle, en les empêchant de revenir, en les tirant aux frontières comme des lapins, sans pitié, pour les dissuader à jamais de tenter leur chance dans un paradis qu'ils avaient contribué à transformer en enfer. Sa mère tempérait ses propos en précisant qu'il serait préférable pour tout le monde que chacun ait la possibilité de vivre dans son pays d'origine, manière sournoise d'insinuer que certaines nations ne savaient pas se gouverner elles-mêmes. Ce n'était pourtant pas la faute de les aider, elles-mêmes se démenaient en faveur des damnés de la terre en se demandant parfois si certains le méritaient vraiment. Elle fut réveillée par les premiers cris du matin, le passage des camions poubelles et le halètement d'un chien, un molosse au poil noir et feu et à la gueule énorme. Il avait échappé à son maître pour se glisser sous les branches, traînant sa laisse derrière lui, poussant des grognements sourds, dévoilant des crocs impressionnants. Elle ne bougeait pas, mal réveillée, pas encore effrayée, moins méfiante des animaux que des hommes. Il lui flairait les jambes en remontant vers son entrejambe. Elle tenta de serrer les cuisses, mais il força le passage à coups de museau impérieux et puissant. Elle se recula sur les fesses, se heurta aux branches, manquant de s'enfoncer un chicot dans la nuque. Le chien gronda et poursuivit son manège. La voix d'un homme retentit quelques mètres plus loin. « Qu'est-ce que t'as encore trouvé là-dedans ? Viens là, mon chien, on rentre !» Le chien continua d'enfoncer son museau entre les cuisses de la fille. Elle ne pouvait lui opposer la moindre résistance, empêtrée dans les branches basses.
« Sors de là tout de suite !»
Le molosse obéit enfin à son maître. Il se détacha à regret de la fille, leva la patte et lâcha une brève giclée d'urine sur le bas du tronc avant de disparaître de l'autre côté des branches. Un claquement. Un geignement étouffé. L'homme avait montré à l'animal qui était le maître. Elle sortit de son abri quelques minutes plus tard. Elle mourait de soif et de faim et se sentait comme une poubelle ambulante, l'impression de dégager une puanteur épouvantable. Elle croisa une vieille femme, éberluée par sa soudaine apparition. Plus loin, sur la pelouse, le molosse courait après une balle jaune lancée par un homme au crâne rasé. Des nuages noirs et lourds moutonnaient au-dessus des toits, porteurs d'eau. Elle vérifia que les 300 euros remis par le hibou n'avaient pas changé de place. D'abord, trouver un café ou manger, recharger la batterie de son portable, puis dégoter des bains publics, se laver, enfin, acheter des fringues de rechange, contacter chaque, commencer les démarches pour obtenir de faux papiers, trouver un refuge pour les 4 jours à venir jusqu'à ce qu'elle touche le solde de son contrat et puisse enfin s'organiser, trouver peut-être un petit boulot et un logement en banlieue. Le bistrot ne fut pas difficile à trouver. Elle se cala sur une banquette et commanda un petit déjeuner avec un café et de l'eau. Le serveur, un grand type aux joues couperosées et aux cheveux gras, l'enveloppa d'un regard à la fois condescendant et lubrique. Il la trouvait à son goût, visiblement, la petite noire échouée dans son troquet du 12e. Cyriane aurait bien voulu contempler le visage de son corps d'emprunt, mais il n'y avait pas de miroir devant elle, ni de vitre qui aurait réfléchi son image. Elle dévora de bon appétit les 2 tranches de baguette, le croissant, commanda encore du pain et du café. « Eh ben, on a très faim, on dirait !» lâcha le serveur avec un remarquable sens de l'observation. Elle lui demanda si elle pouvait recharger la batterie de son portable. Il poussa la galanterie jusqu'à s'en occuper lui-même. « Un bel appareil que vous avez là. Vous pouvez le laisser là jusqu'à ce qu'il soit rechargé et revenir le prendre plus tard si vous voulez. Je le surveille. » Elle engloutit les 2 tartines supplémentaires aussi vite que les premières. Loin d'être rassasiée, elle évita de passer une nouvelle commande de peur de se faire remarquer. Cyriane captait chacune de ses pensées aussi clairement que s'il les avait lui-même émises. Il ne savait pas comment elle s'appelait. Elle n'avait pas d'adresse, et la seule tête connue qu'elle eût croisée depuis qu'elle avait quitté le laboratoire était celle du vieux clochard égorgé. Les heures seraient interminables et semées d'embûches jusqu'au 2e rendez-vous. Elle patienta en parcourant le journal du jour. La une était consacré à la guerre imminente entre les 2 nouvelles coalitions, Syrie, Iran, Irak, Liban et Yémen d'un côté, Turquie, Israël et l'OTAN européen de l'autre. La France avait prévu pour sa part de fournir 15 000 hommes, ces fameux chars Leclerc, et une aide aérienne massive. On signalait en page intérieure la découverte de plusieurs dizaines de cadavres dans la Marne et d'une nouvelle vague de crimes en série qui atténuait malheureusement le soulagement suscité par l'arrestation du tueur des Beaux-Quartiers. La fille lisait avec lenteur, butant sur les mots complexes dont se délectait le rédacteur. Elle régla sa note, 16 euros les bouts de pain, le croissant et les cafés, pas donnés tout de même, avant de se rendre aux toilettes. Cyriane put enfin la contempler dans le miroir fixé au-dessus du lavabo. Elle était jolie, très jolie. Peau ébène, front haut et bombé, yeux noirs en amande, pommettes saillantes, nez un peu large, lèvres sombres et pleines, cou fin, cheveux crépus encore parsemés de brindilles. Elle s'observait avec attention. Elle ne s'aimait pas. Mais comment s'aimer quand on a subi de telles atrocités? Comment se trouver belle quand on a poussé sur une telle laideur? Elle se frotta énergiquement l'entrejambe avec le creux de sa main emplie d'eau, puis elle disposa quelques feuilles arrachées au rouleau de papier toilette dans le fond de sa culotte tachée avant de se rhabiller. Elle se rinça de nouveau les mains et le visage, contempla un moment ses joues et son front ruisselant, récupéra son sac et se décida enfin à remonter dans la salle. Trois flics buvaient un café au comptoir, une femme et deux hommes. Une scène revint en mémoire de la fille. Trois hommes alignés devant un comptoir identique à celui-ci. Trois hommes dont les intentions ne faisaient pas l'ombre d'un doute. Et puis, face à eux, une métisse perchée sur des talons hauts, vêtue d'une jupe ultra courte d'où tombaient de longues jambes, un flingue à la main. Un homme couché en chien de fusil, les mains crispées sur son bas-ventre, baignant dans une mare de sang. La fille marqua un temps d'arrêt en haut de l'escalier. Une hésitation fatale. L'un des flics se retourna, leva les yeux au-dessus de sa tasse et lança. « Tiens, tiens, d'où elle sort, la Miss Afrique ?»